tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
La deuxième série d'articles de cette émission s'inscrit dans le cadre du deuxième volet intitulé « Continuer à prendre des Bastilles » et qui présente ainsi la thématique. Les évidences du bon sens ne sont souvent que l'intériorisation des valeurs de l'ordre en place. Ah, quoi de plus évident que la nécessité d'un chef, que l'inégalité des talents, que la récompense due au meilleur. D'éclatantes conquêtes collectives ont inventé la possibilité d'un monde où chacun serait l'égal de l'autre. Encore faut-il, pour que ce monde advienne, ne pas les oublier ou les dévoyer.
Et le progrès nous sourit.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1880-1890, vous entendrez de Isaac Albéniz la suite espagnole.
Les Jacobins contre le grand capital, par Jean-Pierre Gross. Le projet égalitaire des Jacobins portait-il en germe une idéologie liberticide, comme l'affirme aujourd'hui la pensée dominante ? Une telle interprétation, qui établit une antinomie entre liberté et égalité, occulte les réflexions et les actions engagées par Maximilien de Robespierre et ses partisans pour concilier ces deux principes au sein d'un modèle de société fondé sur la justice distributive et le bien commun. Affirmer l'idéal égalitaire des Jacobins va de soi. Disciples de Jean-Jacques Rousseau, ils s'appliquèrent à éradiquer les inégalités héritées de l'Ancien Régime. 1789 consacra l'égalité devant la loi, 1793 devait inaugurer l'ère de l'égalité réelle. Mais, affirmé en même temps, le libéralisme des Jacobins, disciples de Charles de Montesquieu, relève du paradoxe. Liberté et égalité ne sont-elles pas a priori incompatibles? Plus il y a de liberté, plus la concurrence tend à engendrer des inégalités. Et inversement, si l'on veut pousser l'égalité, on est amené à empiéter sur les libertés en redistribuant richesses ou avantages. C'est pourquoi Montesquieu, dans son projet de société, s'était forcé de doser les deux, la liberté étant à ses yeux plus désirable que l'égalité et l'inégalité un moindre mal que le despotisme. À ce dilemme philosophique s'ajoute la problématique historique de la terreur. Les auteurs modernes nous ont répété qu'elle fut non seulement un régime répressif imposé par les circonstances et entraînant une nécessaire restriction des libertés, mais aussi une idéologie égalitaire visant la régénération morale et l'uniformité de la société. Ainsi, Luc Ferry et Alain Renaud condamnent le jacobinisme pour sa vision volontariste et éthique des droits de l'homme. Le risque inhérent à une telle vision étant celui historiquement vérifiable de la terreur. François Furet et Mona Ozouf, pour leur part, estiment que le consentement à la contrainte fut dans la Convention la vraie ligne de clivage. En voulant imposer l'égalité aux riches et les forcer à être honnêtes, Maximilien de Robespierre et les siens inauguraient l'ère totalitaire, le culte de la violence n'attendant plus que la greffe bolchevique pour devenir au XXe siècle nécessité révolutionnaire. Certes, la complaisance des historiens de gauche a favorisé cette perception d'une inexorable continuité historique. Albert Mathieu ne voyait-il pas en Robespierre le complice de Gracchus Babeuf, à un moment où ce dernier était revendiqué comme ancêtre attitré de la révolution prolétarienne? Écrivant en 1928, à l'époque de la découlakisation en Union soviétique, Mathieu présentait la politique agraire des Jacobins de l'an 2 comme une vaste tentative d'expropriation d'une classe au profit d'une autre. Bien que cette interprétation ait été sensiblement modifiée par ses successeurs, il n'en reste pas moins qu'à travers le prisme marxiste, l'expérience jacobine apparaît encore comme une préfiguration des luttes idéologiques des temps modernes.
Au dilemme philosophique entre liberté et égalité s'ajoute la problématique de la terreur, telle qu'elle a été déclinée par les auteurs modernes.
La logique des droits naturels. De telles assimilations donnent à réfléchir. Elles révèlent une profonde méprise quant à la nature de l'égalitarisme jacobin, né de l'individualisme de 1789 et de la logique des droits de l'homme. La Déclaration des droits de 1793, rédigée conjointement par Girondins et Montagnard, essentiellement par Nicolas de Condorcet et par Robespierre, proclame les droits naturels que sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Ces droits sont issus des thèses de John Locke, 1632-1704, père du libéralisme moderne, qui définissait le droit de propriété comme englobant la vie, la liberté, les biens, y compris la faculté d'accumuler les richesses et d'en jouir, mais qui affirmait aussi l'égalité naturelle et le droit égal à la liberté, impliquant, selon le principe de réciprocité, le devoir de respecter le droit de l'autre à la liberté. Comme le note Amartya Sen, théoricien de l'utilitarisme anglo-américain, l'égalité est non seulement une caractéristique essentielle des conceptions libérales d'organisation sociale, liberté égale pour tous, considération égale pour tous, mais l'opposition entre liberté et égalité est factice et inexacte. La liberté étant parmi les champs d'application possibles de l'égalité, et l'égalité parmi les schémas de distribution possibles de la liberté. Si la Déclaration des droits de 1793, à l'inverse de celle de 1789, fait précéder la liberté par l'égalité, c'est qu'un obstacle économique s'oppose à la réalisation des droits réciproques, celui de la pauvreté, et qu'un seuil est postulé à partir duquel l'égalité revêt un sens, celui du minimum vital. Dans la mesure où être pauvre consiste non seulement à manquer de pain, mais surtout, comme le formule Amartya Sen, à être privé de liberté, le bien-être équivaut à la faculté d'en jouir. Or, la Déclaration de 1793, à son article 1er, qui décrit le but de la société comme étant le bonheur commun, soutient que le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits. C'est le préalable social qui doit permettre aux plus démunis de franchir le seuil opérant des droits de l'homme et d'accéder, dans le langage de Robespierre, à la pauvreté honorable.
Si, dans la Déclaration de 1793, l'égalité précède la liberté, c'est que l'obstacle de la pauvreté s'oppose à la réalisation des droits réciproques.
Construire une famille de frères. La Déclaration jacobine, affichée dans les lieux publics pendant toute la durée de la terreur, ne vise ni le nivellement absolu, ni la communauté des biens. Elle s'inscrit dans le contexte d'une économie de marché pré-capitaliste fondée sur la propriété privée. Elle cherche à concilier liberté et égalité grâce au ciment de la fraternité. Robespierre est le premier, dès 1790, à demander que ces trois mots figurent ensemble sur les drapeaux des gardes nationales. Projet de société qui se réclame d'une famille de frères, où chacun trouve sa place, l'assurance d'être nourri, vêtu et logé, voire d'obtenir son lepin à cultiver, et où chacun est appelé à apporter, selon ses forces et ses capacités, une contribution par définition inégale au bien commun. Projet de justice distributive qui favorise l'équité plutôt que la stricte égalité. Les inégalités qui subsistent ne lésent personne, et conformément aux deux principes de justice proposés par le philosophe américain John Rawls, contribuant à terme au bonheur commun. Un tel idéal, qui laisse aujourd'hui rêveur, a connu une longue gestation à l'époque des Lumières, mais ses origines restent en partie voilées. D'une part, se développe en France un égalitarisme à l'antique, qui condamne le luxe et qui sera exploité par Montesquieu, Rousseau et l'abbé Mably. Mais parallèlement, à la suite de Locke, les économistes français de la première moitié du XVIIIe siècle élaborent à leur manière un projet humaniste libéral de cohésion sociale fondé sur l'égalité naturelle. Ce libéralisme égalitaire, spécifiquement français, s'oppose tant au mercantilisme qu'à la tendance libérale classique débouchant sur le capitalisme. la théorie de l'économie morale. Quels en sont les traits saillants ? Affirmation du droit égal à la liberté et à la propriété. Rôle central attribué à la chaîne solidaire des besoins réciproques et des échanges marchands. Valorisation de la classe des petits producteurs, paysans, artisans, ouvriers, compagnons, et de leur contribution à la prospérité générale. Rôle significatif dévolu à l'État, tuteur de la grande famille, qui veille à l'équilibre de la répartition et à l'harmonie sociale. La société bien policée, voulue par ces libéraux, est à égale distance du laisser-faire débridé et du dirigisme, modérément interventionniste. Elle annonce plutôt une économie gérée de modèle keynésien. Mais à celle-ci s'oppose, à partir de 1758, l'essor du grand mouvement physiocratique, qui privilégie l'enrichissement centré sur le capital agraire, la libre concurrence, l'élimination du corporatisme, une fiscalité simplifiée. Dans l'histoire économique, l'engouement pour la thèse des physiocrates, relayée et partiellement appliquée par Turgot, aura pour effet d'éclipser celle des libéraux égalitaires. Ces derniers font pourtant valoir qu'économie et morale ne sont pas antagonistes. Si l'on conçoit la richesse non pas comme un paramètre quantitatif à maximiser, mais comme le fruit de l'équilibre économique et social. C'est ainsi que le chevalier Louis de Jaucourt et le receveur général Jean-Joseph Louis Grasselin militent en faveur de l'impôt progressif comme instrument de justice fiscale, et que Jacques Necker s'oppose à Turgot en 1775 dans la querelle sur la liberté du commerce des grains. Necker, interventionniste, défenseur des petits consommateurs et apôtre de l'harmonie générale, précurseur à sa manière des Jacobins. Ceux-ci reprennent à leur compte les préoccupations économiques des Lumières. Entre Girondins et Montagnards, le fossé est moins profond qu'on ne l'a dit. Par exemple, les uns et les autres sont favorables à l'impôt progressif sur le revenu. Mais lors du grand débat de 1792 sur la libre circulation des grains, c'est l'affrontement. Face à Pierre Victurnien Vergniaud et à Jacques-Antoine Creuset-Latouche qui préconisent la liberté illimitée, Robespierre défend le droit à l'existence. Faisant écho à Rousseau, qui affirmait que dans l'état de nature, les fruits sont à tous et la terre n'est à personne, Robespierre souligne que la propriété ne peut jamais être en opposition avec la subsistance des hommes, celle-ci étant un droit aussi sacré que la vie elle-même. C'est affirmé face à l'économie de marché la thèse de l'économie morale, thèse défendue aussi par le jeune Louis-Antoine de Saint-Just, qui a du mal à concilier les théories d'Adam Smith, selon lesquelles le libre jeu de l'intérêt serait le principal critère de l'action économique, avec le triste constat que les hommes durs qui ne vivent que pour eux portent gravement atteinte à l'harmonie sociale. Prise de position significative de la part de libéraux qui refusent de confondre intérêt personnel et égoïsme.
La propriété ne peut jamais être en opposition avec la subsistance des hommes, celle-ci étant un droit aussi sacré que la vie elle-même.
Vers une justice distributive. Mais si les Jacobins s'opposent à l'accumulation immodérée des biens matériels, ce n'est pas pour revendiquer la loi agraire. Robespierre, champion des sans-culottes, a toujours défendu le droit de propriété, surtout celui des petites gens, des travailleurs manuels, dont le modique salaire et les petites épargnes constituent des propriétés d'autant plus sacrées que l'intérêt à la conservation de sa chose est proportionné à la modicité de sa fortune. Ses préventions contre la montée des richesses et le grand capital ne l'empêchent pas d'affirmer une conception de la propriété identique à celle de Locke et de Smith, à une condition près. Que la liberté d'appropriation ne puisse s'exercer aux dépens de ceux qui en sont dépourvus. Robespierre n'affiche-t-il pas son libéralisme et son humanisme en affirmant que si tous les riches se comportaient comme les économes de la société et comme les frères du pauvre, on pourrait ne reconnaître d'autre loi que la liberté la plus illimitée. Un programme de justice distributive fut mis à l'essai sur le terrain. Rationnement alimentaire, réforme agraire sans expropriation, axée sur la propriété utile, levée de taxes révolutionnaires à caractère progressif, enseignement primaire pour garçons et filles, formation ouvrière, ébauche de l'État-providence. Il visait à créer une démocratie de petits propriétaires et de travailleurs indépendants où régnerait l'égalité des droits et l'égalité des chances, même au féminin. D'application inégale et éphémère, il laissa néanmoins dans la mémoire collective des contrées où il fut amorcé, tels les pays du Sud-Ouest, une résonance qui se prolongea au long du XIXe siècle.
Thank you. Thank you.